Radio Kapi. Oh, Kapi.
Vingt personnes ont été tuées hier, mercredi, en Ituri, par des présumés miliciens de la Codeco dans le village Matongo, secteur de Banyalikilo, dans le territoire de Djougou, selon la société civile locale. Les victimes, dont deux femmes et leurs enfants, ont été surprises dans les champs et dans les périmètres miniers. Information pas encore confirmée par des sources officielles. Près de 3000 cas de monkeypox en 4 mois, dont 241 décès notifiés dans la province de l'Équateur. Ces chiffres ont été fournis hier à l'issue de la réunion hebdomadaire de la surveillance épidémiologique. La variole du singe touche 17 zones de santé sur les 18 que compte l'Équateur. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et notre invité, Volker Türk, a fini sa visite dans l'est du pays où il a visité les sites des déplacés à Bunia et à Goma et il s'est dit choqué par la souffrance de ces personnes vulnérables. Bonjour à tous. 20 personnes ont été tuées hier mercredi par des présumés miliciens de la Codeco dans le village Matongo, secteur de Banyalikilo dans le territoire de Djougou en Ituri. Selon des sources locales, les victimes, dont deux femmes et leurs enfants, ont été surprises, certaines dans leurs champs, d'autres dans des périmètres miniers. Des sources officielles ne confirment pas encore cette information. La société civile locale déplore la persistance des violences contre des civils dans cette entité presque entièrement occupée par des groupes armés. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation sécuritaire demeure inquiétante dans plusieurs entités du secteur de Banyalikilo dans le territoire de Djougou. Des attaques des groupes armés se multiplient contre des civils suivies de meurtres. Selon des sources sécuritaires, mardi dernier, un groupe de miliciens Zaïre a fait incursion dans le village d'Igene où ils ont exécuté un civil et pris en otage 7 autres qui seraient membres de la communauté Lendu. Ce qui a suscité la colère d'une faction des miliciens de la Codeco venue de l'ICEI, entité voisine de la cité minière de Mungwalu. Ces miliciens sont descendus dans les sites miniers dénommés briques et téléphones où ils ont pris en otage des civils dont des femmes et des enfants qui se trouvaient au champ. La société civile locale avance un bilan provisoire des 20 personnes tuées et dont les corps sont exposés ce jeudi matin dans les villages Matongo dans le groupement Kirongozi. Robert Basiloko, son président.
Qu'est-ce que vraiment dépasse l'armée à maîtriser tous ces groupes armés Codeco et les autres là? Il manque quoi? Il manque les munitions, il manque les hommes. Est-ce qu'il manque les moyens, l'argent pour maîtriser tout ça? Le gouvernement doit avoir pitié des personnes tuées à tout moment comme ça.
Contacté, l'administrateur du territoire de Djougou confirme plusieurs attaques dans la zone. Les notables de cette entité demandent au gouvernement national d'imposer la paix dans ces territoires où la violence perdure depuis plus de 6 ans. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, 21 prévenus, dont 3 officiers militaires des FRDC, comparaissent depuis mardi devant la cour militaire, siégeant en chambre foraine à la tribune officielle à Bounia. Ils sont poursuivis pour violation des consignes, vol à main armée et détournement des munitions de guerre. Ces présumés criminels sont également cités dans plusieurs cas de meurtre dans les différents sites miniers du territoire de Mambasa. Un reportage de Ezekiel Mouzalia, rendu par Blaise Shindani Kambala.
Ces faits remontent à juin de l'année dernière. Un groupe de présumés bandits de grand chemin, conduit par l'IFETA, connu sous le sobriquet d'Endocide, a cambriolé dans plusieurs entités sur les tronçons PK-25 à PK-51 dans les territoires de Mambasa. Ces personnes qui étaient recherchées par la justice après les enquêtes ont été arrêtées au mois de novembre dernier, puis transférées à Bounia après des opérations militaires lancées par les FARDC. Le chef de file de ces bandits est mort et confirmé la veille des audiences par l'avocat général de la cour. Lors de l'instruction mardi du dossier à cette juridiction siégeant en chambre foraine, 3 officiers militaires dont un colonel, un lieutenant et un adjudant-chef de la 3e zone de défense de Kisangani sont également présentés par la cour comme principaux fournisseurs d'armes à ces groupes criminels. Tous sont poursuivis pour association des malfaiteurs, vol à main armée, violation des consignes et détournement de munitions. Des acteurs de la société civile saluent la tenue de ces audiences et veulent que les coupables soient punis conformément à la loi. Signalons qu'un autre groupe de 16 inciviques a été condamné l'année dernière par les tribunaux militaires de garnison de Mambasa.
Justice militaire encore. La peine de mort, c'est la condamnation prononcée hier mercredi dans la soirée par le tribunal militaire de garnison de Goma pour un soldat des FRDC du 11e brigade basé à Rusayo dans le territoire de Nyiragongo. Le condensé de la décision du tribunal dans ce reportage de Gabriel Wamenya.
Les soldats condamnés s'appellent Tumaini Mazilani Jean Dédier de la 11e brigade. Il est presque 17h local lorsque le capitaine magistrat Kalonji Kubi prononce la sentence de mort contre ces jeunes soldats des FRDC affectés aux opérations militaires dans le groupement de Rusayo en territoire de Nyiragongo. Rappelons que ces militaires, en compagnie de son collègue d'armes en quête de nourriture, ont quitté leur position opérationnelle samedi dernier pour venir s'approvisionner en vivres à Goma sans aucune autorisation de l'air hiérarchie. C'est en plein vagabondage qu'ils sont tombés dans les griffes de la police militaire en patrouille. Après une brève altercation avec les patrouilleurs qui ont tenté de lui ravir son arme, 4 balles sont sorties accidentellement de son arme pour atteindre les motards qui transportaient l'un des patrouilleurs. Le motard a été grièvement blessé avant d'être conduit à l'hôpital Sebekan Ndosho où il est pris en charge par les CICR. Poursuivi pour 3 chefs d'accusation, entre autres la violation des consignes, la dissipation des munitions de guerre et la tentative de meurtre, ce soldat condamné a affirmé qu'il serait impayé depuis 5 mois maintenant et qu'il mange une seule fois par jour dans leur campement. C'est ce qui conduit, selon lui, au vagabondage des militaires hors de leur position. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Quant aux nouvelles du front, toujours au nord Kivu, notez que des combats ont repris ce jeudi matin autour de l'agglomération de Kibirizi, groupement Mutanda, chefferie de Bwito dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs sources locales parlent d'accrochages qui opposent les rebelles du 1-23 à une coalition des groupes armés locaux. Une partie de cette entité vient de s'évider de ses habitants. Et pendant ce temps, dans la ville de Beni, les activités socio-économiques ont repris leur cours normal ce jeudi matin après 2 jours de ville morte décrétée par des mouvements citoyens et autres groupes de pression de la région. Ils entendaient ainsi protester contre le regain d'insécurité dans la ville et le territoire de Beni, principalement dans les quartiers Sayo, Kasangatua et Mangodomu, dans les communes de Mulekera et Mangina. Au moins 40 civils ont été tués depuis le mois de mars dernier dans ces localités par des ADF. Boutiques, maisons de commerce, écoles, agences de voyage, marchés, banques ont ouvert leurs portes à nouveau aux premières heures de la matinée. Les acteurs de la société civile et des droits de l'homme se félicite de l'encadrement des forces de l'ordre qui a permis qu'il n'y ait ni interpellation ni répression des manifestants. Des détenus déshabillés, fouettés et filmés, ça se passe à la prison de Boma, à Kipushi, dans le Haut-Katanga, une trentaine de kilomètres de Lubumbashi. Ces vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Cette scène a suscité une vive indignation des autorités politico-administratives et judiciaires, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme. Nous apprenons que les personnes incriminées sont déjà déférées devant la justice, où elles sont jugées en procédure de flagrance, à Kipushi même. Jean Gandou.
Les sources proches de la prison renseignent que ces faits se sont produits samedi dernier entre 20h et 21h. 8 personnes impliquées dans un conflit coutumier et qui étaient acheminées en fin d'après-midi du même jour dans cette prison ont été torturées sur ordre du chef des détenus autrement appelé capitaine général. Ces hommes ont été déshabillés, chicotés et filmés et les images postées sur les réseaux sociaux. Saisis, le parquet civil, l'auditorat militaire, la Commission nationale des droits de l'homme et les autorités politico-administratives de Kipushi sont allés à la prison de Boma pour s'enquérir de la situation. Une fois identifiés, les auteurs de ces actes ont été déférés devant la justice où ils sont jugés en procédure de flagrance. Joseph Kongolo, le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme dans le Haut-Katanga, qui déplore ces actes, estime que
ces traitements-là est qualifié d'inhumain, de dégradant et de cruel. Par conséquent, les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés conformément à la loi pour servir d'exemple par rapport à toutes les prisons du pays.
Nous apprenons que le directeur de la prison a été suspendu par le chef des divisions provinciales de la justice. Il lui est reproché de n'avoir pas fait mention de ces incidents dans son rapport journalier. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Nous en parlions dans le sommaire. Environ 3000 cas et 241 décès déjà notifiés en 4 mois sur le bilan des monkeypox ou la variole de singe qui fait rage actuellement à l'Équateur. Le bilan a été donné à l'issue de la réunion hebdomadaire de la surveillance épidémiologique. L'épidémie a gagné 17 zones de santé sur les 18 que compte la province de l'Équateur. Mais la prise en charge reste un casse-tête pour une population très démunie malgré l'appui de l'ONG Médecins sans frontières Belgique. Mais cette ONG
Bandji International n'a plus que deux zones de santé touchées par la maladie. Le point avec Paul-Richard Malinger.
Le bilan établi ce mercredi en Bantaka par la cellule provinciale de surveillance épidémiologique de l'Équateur est sans équivoque. Depuis le début de l'épidémie, 2991 cas de monkeypox ont été notifiés avec 241 décès, soit une létalité de 8%, ce à travers 17 des 18 zones de santé qui composent la province. La zone de santé la plus touchée reste toujours l'Otumbe avec 2127 cas et la moins touchée c'est l'Ilanga-Bobangi qui n'en a que 5. Par ailleurs, avec ces trois zones de santé, la ville de Mbandaka a déjà franchi la barre des 63 cas avec quelques décès, tandis que le territoire de Makanza est le seul qui n'a pas encore notifié des cas. Et partout, les personnels soignants se débrouillent pour la prise en charge des malades, hormis dans les deux zones de santé appuyées par MSF Belgique. Ailleurs, faute de moyens et de médicaments, les villageois se rendent très peu à l'hôpital. Ils se livrent carrément au traitement indigène auprès des guérisseurs, d'autres à des séances de prière, mais sans respect des mesures barrières. Cette négligence d'hygiène a contribué énormément à la propagation rapide de cette maladie, indiquent des experts qui en appellent à l'intervention urgente des autorités nationales, notamment à Boleke, dans la zone de santé de Monyeka, où plusieurs cas de décès, faute de prise en charge, sont plutôt signalés par la communauté. Bandaka, Porchamalengela, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, la crue du fleuve Congo et de ses affluents engendre des conséquences énormes sur le plan social, sanitaire et économique dans les territoires de Basso, Isangi et Yaouma. Plusieurs centaines de familles sont affectées par ces inondations. La société civile locale demande au gouvernement d'apporter une assistance aux nombreuses familles victimes de ces eaux en furie. Depuis Kisangani, Jacques Moukonkole.
La société civile d'Isangi rapporte que plusieurs maisons se sont écroulées à la suite des inondations. Des sources d'eau sont englouties et des routes coupées. La société civile locale parle d'autres conséquences et redoute le retard par rapport au calendrier scolaire.
Par avant, il n'y avait pas des inondations comme ça se passe ces derniers temps. Les maisons sont cassées, il y a les chiens aussi qui sont inondés, les récoltes sont envahies par les eaux. Les domaines sanitaires, il y a beaucoup de maladies, il y a certaines écoles qui sont inondées. Les enfants n'étudient plus, par exemple dans les centres de Isangi là-bas. Et ça aussi, ça cause en tout cas un grand retard pour le calendrier scolaire.
Des cas de maladies d'origine hydrique sont également signalés chez les enfants. Un peu plus loin, en aval du fleuve, dans le territoire de Basoko, la situation est quasiment similaire dans plusieurs villages. La société civile, les notables ainsi que les leaders religieux en appellent à l'intervention du gouvernement de la République. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
La division provinciale de la santé DPS Kwilu organise du 16 au 19 avril 2024 à Bandundu-Ville la revue annuelle de ses activités de l'année 2023. Au cours de ces assises, les participants vont passer en revue toutes les activités de la santé réalisées l'année dernière, identifier tous les problèmes qui ont bloqué le bon déroulement de certaines activités et aussi prendre des bonnes décisions pour la bonne marche des activités en 2024. Le but est de contribuer à l'amélioration de la santé de la population, a déclaré le chef de division provinciale de la DPS Kwilu, Dr Jean-Paul Matela. Depuis Bandundu-Ville, Irène Mbomaluzolo.
Plusieurs personnes venues de tous les coins du Kwilu prennent part à cet atelier de la revue annuelle du secteur de la santé qu'organise la DPS Kwilu, à savoir tous les 24 médecins chefs de zone qui comptent cette province, les coordonnateurs des programmes spécialisés de lutte contre la maladie, les partenaires techniques et financiers, les cadres de cette DPS et d'autres autorités de tutelle. Le chef de division provinciale de la santé du Kwilu, Dr Jean-Paul Matela, explique la quintessence de ces assises de 5 jours.
On a reçu le financement des partenaires et même de la communauté qui ont permis que les activités qui cherchaient à améliorer l'état de santé de la population soient menées. Il fallait rendre compte.
À l'issue de ces travaux, des recommandations seront formulées pour l'année 2024 en cours. Docteur Jean-Paul Matela.
Nous poursuivons pour avoir une idée des différents goulots d'étranglement qui ont bloqué nos activités et produire les recommandations qui pourront nous guider pour 2024.
Débuté mardi à Bandundu-Ville, cet atelier de la revue annuelle de la DPS Kwilu va se clôturer samedi et le centre Ntombwa et les cadres qui l'abritent. Irène Mboma, Bandundu-Ville, Radio Okapi.
Au
Au sud, qui vous clôture hier à Bukavu de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale. Cette clôture a coïncidé avec l'élection et installation du bureau définitif de cet organe délibérant provincial. Le président élu et tout son bureau s'engagent à œuvrer pour le développement du sud Kivu. Emmanuel Elamégie.
C'est le doyen d'âge, alors président du bureau provisoire, qui garde son fauteuil pour avoir été réélu par ses pairs comme président du bureau définitif. Feston Zindula Kabeza est élu de Mwenga et membre du parti politique Alliance Nationale pour un Congo Émergent, ANCE.
Aujourd'hui, nous voulons vous assurer que nous allons œuvrer ensemble dans la communion pour que nous puissions relever les défis pour le développement de notre province. Nous remettre au travail parce que la population attend de nous la différence.
Le député provincial Nestor Baliana, élu de Kalehe et allié de l'UDPS, est son vice-président. Anani Lunanga, de la circonscription électorale de Bukavu, est élu rapporteur du bureau définitif où il siège au nom du BUREC. La formation politique AFDCA gagne 2 sièges, dont le rapporteur adjoint élu de Kalehe et une questeur, l'unique femme au bureau définitif, Filad Furaisha Mukuyano, élu d'Uvira. Maintenant, la voie est donc ouverte pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs du Sud Kivu, prévues le 29 avril 2024. Emmanuel Elamejiu Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
Depuis le mois d'octobre, les pays d'Afrique de l'Est subissent des pluies diluviennes. En résulte des inondations qui ont fait plus de 300 morts dans la région. En Tanzanie, 58 personnes ont perdu la vie au cours de 2 dernières semaines. Au Kenya, 10 de personnes ont également disparu ces 2 dernières semaines.
L'invité.
Notre invité est Volker Türk. Il est le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il nous parle de sa visite dans les différents sites des déplacés à Bulengo dans le nord Kivu et à Téré dans l'Ituri. Il se dit choqué de la souffrance de la population de l'Est. Volker Türk s'entretient avec Paul Badianyama.
Monsieur Volker Türk, bonjour.
Bonjour.
Après avoir rendu visite aux déplacés de Téré qui accueillent plus de 800 ménages en Ituri, et des Bulengo au nord Kivu, vous avez palpé du doigt la réalité de la situation humanitaire de ce site. Comment faire pour mettre fin à cette crise humanitaire due aux violences permanentes dans l'est de la RDC?
Alors tout d'abord, je dois dire que j'étais vraiment choqué par ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu en ce qui concerne la souffrance de la population congolaise dans l'est. Et j'étais à plusieurs reprises dans ce pays, surtout dans l'Est, et je me souviens toujours, et j'ai toujours rencontré des déplacés, et ça me brise le cœur de voir comment ils souffrent maintenant, à nouveau déplacés, après probablement des multiples déplacements qu'ils ont déjà souffert, et dans des situations, il faut s'imaginer, ce sont des personnes qui veulent cultiver, qui sont habituées à vivre dans une situation beaucoup plus vaste. Et maintenant, ils sont confinés dans des sites extrêmement denses. Et ce que j'ai vu, c'est une population traumatisée et fatiguée et qui ne voit pas leur futur. Et ça, c'est tragique. Et il faut faire tous pour trouver une solution. Et c'est clair que la guerre, la violence doit s'arrêter. Tout d'abord, et il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent retourner dans leur zone d'origine.
Les BCN-UDH a appuyé le programme de mise en œuvre de la justice transitionnelle à travers un plan stratégique produit en partenariat avec les ministères des droits. En quels termes peut se traduire l'accompagnement du haut commissaire aux droits de l'homme dans l'implémentation de ce processus de la justice transitionnelle en RDC?
Alors, une chose qui est extrêmement importante, c'est toujours la justice transitionnelle. Parce qu'il faut aussi, comme je expliquais avant, quand il y a des gens, quand il y a une population qui souffre, il faut pouvoir parler la vérité. Il faut trouver ce qui s'est passé. Il faut que les victimes aient la possibilité de dire ce qui s'est passé et de chercher la justice. Alors, on s'est engagé depuis quelques années pour élaborer une justice transitionnelle ici, Et c'est clair qu'il faut surtout travailler, ça c'est quelque chose de gouvernemental, il faut travailler avec le gouvernement pour que ça avance.
La RDC est au centre des crimes, des violences des droits de l'homme monitorées régulièrement par le BCNUDH. Comment comptez-vous faire pour que le travail du BCNUDH se pérennise sans la MONUSCO qui est en train de se retirer du pays?
Alors c'est clair que les droits humains vont survivre tout. Parce que les droits humains vont être là indépendamment des institutions. Et ça, c'est un des piliers des Nations Unies, c'est un des piliers aussi de chaque gouvernance, de chaque gouvernement. Parce qu'on ne peut pas faire le développement, on ne peut pas faire la paix et la sécurité sans les droits humains. Alors j'espère bien qu'on va pouvoir continuer à travailler avec le gouvernement, avec la population, avec la société congolaise, pour avancer les droits humains. Et c'est clair que la protection des civils est une priorité absolue.
Voici ma dernière question. Quelle action concrète peut-on attendre de votre organisation contre les crimes perpétrés dans l'Est de la RDC plutôt que des simples déclarations de condamnation?
Alors pour nous, ce qui est important, c'est de faire du monitoring, de la documentation et des rapports. Et puis, on est en train de toujours investiguer et de faire des enquêtes, bien sûr aussi avec les autorités. Il faut lutter contre l'impunité, mais il faut aussi dire ce que se passe. Et il faut dire qui sont les acteurs et comment on peut éviter ça dans le futur. Ça, c'est très clair.
Monsieur Volker Turk, je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup.